BDO.
J'ai toujours eu une tendance à vite prendre des responsabilités et prendre le lead, en fait. J'ai décidé qu'on allait arrêter l'activité demain matin et que chacun rentrait chez lui. J'adore être inspirée par l'équipe et j'adore inspirer une équipe. Nous, on est le média qui est au cœur des villes, dans les abribus.
Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Boutaïna Araki, l'ancienne présidente de Clear Channel France. Clear Channel qui est un leader mondial dans le domaine de la publicité extérieure. Alors Boutaïna a un parcours professionnel riche et diversifié dans le monde de la publicité et de la communication, diplômée de l'EDEC avec une spécialisation en finance. Elle a entamé sa carrière à la direction financière d'une filiale de la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui connue sous le nom de Veolia Environnement. Boutaïna poursuit sa carrière dans la direction financière de grands groupes, notamment Canal+, avant de rejoindre Clear Channel en 2011. Son ascension se poursuit en 2016 quand elle devient DG, puis en 2020 quand elle est nommée présidente en France. Au-delà de ses responsabilités professionnelles, Boutaïna est également une femme engagée, œuvrant pour l'égalité homme-femme, la promotion de la diversité et en faveur de la transition écologique. Elle a notamment travaillé pour intégrer ses valeurs dans sa gestion chez Clear Channel. Je suis très heureux de l'avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Boutaïna.
Bonjour Arnaud.
Écoute, merci encore d'avoir trouvé du temps. On va passer une petite heure ensemble. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de toi, de tes origines, un peu ce qui a précédé l'entrée dans la vie professionnelle?
Je suis d'origine marocaine. Mmh. Je suis née à Paris et j'ai passé mes premières années, ma petite enfance en France. Mes parents étaient à l'époque étudiants en troisième cycle et donc j'ai fait mes premières découvertes, on va dire, en tant qu'enfant ici avant de rentrer au Maroc. Et j'ai passé en gros entre l'âge de 5 ans et l'âge de 18 ans au Maroc. J'étais dans l'enseignement français là-bas. Je suis arrivée au Maroc, je ne parlais pas un mot d'arabe. J'ai appris l'arabe à partir de l'âge de 5 ans, donc c'est quand même un contexte un peu particulier. Mmh. Et donc j'ai toujours eu le cœur entre le Maroc et la France. Et quand j'ai eu l'âge de 18 ans et qu'il a fallu choisir mes études, c'est assez naturellement que j'ai souhaité faire mes études en France. J'avais l'impression de rentrer chez moi à 18 ans pour venir faire
prépa. Tu vivais où quand t'étais au Maroc?
J'étais à Rabat.
À Rabat.
J'étais à Rabat dans une famille très ouverte, d'intellectuels. Qui m'ont beaucoup appris à oser, à prendre la parole, à débattre. On était une maison, une famille dans laquelle on discutait beaucoup. Mmh. Et la parole des enfants avait autant d'importance que celle des grands. Mon père, qui était un enseignant, qui enseignait l'épistémologie et l'économie politique, et ces matières-là sont importantes dans le sujet, nous a toujours encouragés à donner notre point de vue, à questionner. Et ce qu'on pouvait avoir comme idée était écouté avec autant de respect que ce que pouvait dire n'importe quel autre adulte autour de la table. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup formé, en fait. Ça m'a beaucoup alimenté, nourri pour ce que j'allais devenir plus tard, parce que je suis quelqu'un qui, effectivement, ose parler, ose s'exprimer, a le courage de ses opinions, même dans des contextes parfois un petit peu difficiles. Et tout ça m'a beaucoup nourri, m'a beaucoup renforcé. J'étais aussi dans une famille très ouverte et très égalitaire, ce qui n'est pas forcément très courant partout, mais forcément encore moins dans des pays comme le Maroc. Et ça aussi, ça a été une chance pour moi, parce que ça m'a beaucoup armé. Contrairement à d'autres personnes qui souvent se disent, il a fallu lutter contre des préjugés, contre ceci, cela. Moi, je me sentais forte, en fait, de la confiance que mes parents m'avaient toujours faite. Et c'est quelque chose qui m'a aidée à trouver la légitimité et la force dans ma carrière et d'oser entreprendre et d'oser briguer des postes de responsabilité, oser même dans des négociations prendre le lead. Alors je pense que ça a été très très important, très structurant dans ce que je suis aujourd'hui en tant que femme dirigeante.
Tu avais été élevée réellement avec ces valeurs-là de travail, d'ambition, enfin c'est quelque chose que tu avais déjà dès le plus jeune âge?
Alors travail, oui, très certainement, effectivement. Mes parents étant des gros bosseurs tous les deux. Ambition, je ne sais pas. J'ai été beaucoup élevée avec l'idée de la justice, de l'intégrité, du courage, intellectuelle et physique, et de l'idée de prendre ses responsabilités. Mes deux parents étaient des leaders et ont eu des rôles politiques aussi. C'était tous les deux des enseignants du supérieur, donc capacité à s'exprimer, à prendre la parole, mais aussi des politiques, gens qui ont été dans l'opposition. Et donc, c'est aussi des gens qui m'ont beaucoup appris à voir, à prendre des responsabilités, avoir le courage de ces responsabilités-là. Donc, je parlerais plutôt de sens des responsabilités que de l'idée de l'ambition. C'est ça qui m'a le plus animé.
Donc, tu décides de revenir donc faire des études en France. T'avais quel âge quand tu reviens ?
J'avais 18 ans, je viens de passer mon bac et j'arrive à la Canale, à Sceaux, en région parisienne, pour faire une prépa HEC.
Tu fais ta prépa HEC, tu rentres à l'EDEC. Et donc tu tombes dans la finance. C'était un parcours choisi ou comme beaucoup, souvent, moi quand je vois moi-même, j'ai fait une école de commerce aussi à INSPE Finance. Pas forcément ce dont je rêvais quand j'étais enfant. Je sais pas si c'était ton cas, donc je vais poser deux questions. Est-ce que c'est ça dont tu rêvais quand tu étais enfant, ou alors si c'était autre chose, qu'est-ce que tu aurais aimé faire?
Alors, je ne sais pas si quelqu'un en tant qu'enfant peut se dire « je voudrais faire une prépa HEC ». En fait, on connaît assez mal les métiers vers lesquels ouvrent les écoles de commerce. Donc, en tant qu'enfant, on rêve pas forcément de ça, on rêve de différentes choses. En fait, moi, j'avais un profil très particulier parce que j'étais très, très forte en maths. Et en même temps, j'avais un goût très prononcé pour les matières, on va dire les sciences humaines au sens large, donc la littérature, l'histoire, les langues. Et donc, au moment, vous savez, ce moment où on arrive au lycée, on commence à dire qu'est-ce que je vais faire demain. Et j'hésitais beaucoup. Je me voyais pas du tout faire une prépa. J'avais envie de faire une prépa. J'avais envie d'aller dans l'excellence. Je voulais aller vers une grande école. Et je me voyais pas aller vers maths sup, maths spé, parce que la physique, pour le coup, c'était pas mon truc. Et j'ai hésité, en réalité, j'ai hésité entre la prépa HEC et puis une hippocane. Et ce qui m'a amené à aller vers les écoles de commerce, c'est que je voyais la perspective d'après, de ce que je pouvais faire. Je me voyais pas dans l'enseignement, je me voyais pas. En fait, je l'aurais pas exprimé comme ça à l'époque, hein, clairement pas. Mais je pense que j'avais envie d'être un leader. J'ai toujours eu un tempérament très leader. Moi, j'ai fait du théâtre, j'ai travaillé avec des équipes, et en fait, j'ai toujours eu une tendance à vite prendre des responsabilités, prendre le lead, en fait. Et je pense que j'avais ça en moi, et l'idée de rentrer dans l'entreprise, c'est un truc qui me parlait bien. Et donc, l'école de commerce s'est faite comme ça.
Si on creuse ce point, parce que, enfin, réellement sur le leadership, qui est vraiment quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, et dans tous ces podcasts, j'essaie de comprendre ce qui nous amène à prendre des fonctions de dirigeant. Donc, toi, tu penses que tu l'as identifié dès le plus jeune âge?
Alors, ce que je veux dire, que j'étais déléguée de classe et que...
Ouais. Non, mais ça représente quelque chose, effectivement.
Oui, ça représente quelque chose. Et en fait, dans ça, il y avait à la fois l'idée, encore une fois, de prendre des responsabilités, mais aussi de représenter mes camarades et puis de prendre le lead. Alors, je parlais du théâtre parce que j'ai commencé à faire du théâtre assez tôt. J'ai toujours adoré le théâtre, même toute petite. Et j'ai commencé au collège, puis au lycée. Et en fait... dans la troupe, j'ai pris beaucoup de responsabilités. Alors, j'étais que actrice, c'est souvent les professeurs dans ces cas-là qui sont le metteur en scène, etc. Mais en fait, très vite, j'étais un peu le bras droit du professeur. Et donc, j'organisais, je coordonnais les tâches, je faisais en sorte que les choses se passent bien. Et voilà, j'étais un peu la régisseuse, entre guillemets. Et ça, je pense que ça tenait à mon caractère. Et cette idée de tout de suite prendre les rênes, et quand il faut faire quelque chose, se dire « Ok, je vais faire », c'est quelque chose que j'avais identifié. Mais encore une fois... honnêtement, à 16 ans, à 17 ans, je l'aurais jamais appelé le leadership. J'aurais jamais donné ce nom-là. Simplement, je savais que j'avais cette tendance un peu naturelle à prendre les choses en main. Et ça s'est manifesté très vite, même après, quand j'ai commencé à travailler mon stage de troisième année de l'EDEC, et le stage un peu structurant qui permet un peu de voir ce qu'on va faire après. J'avais fait une spécialisation en finance, et la finance était assez logique pour moi, parce que tant très forte en maths, la logique, ça m'allait bien, la finance. Et puis mon premier stage, je le fais dans ce sous-groupe de la Compagnie Générale des Eaux à l'époque, et j'arrive tout début janvier, et j'allais gérer la campagne de consolidation annuelle, puisque je rentrais dans le service consolidation, qui était directement attaché à la direction financière. Et j'arrive, et même pas deux jours après mon arrivée, ma chef de stage, qui est donc la directrice consolidation, a un souci de santé important et se retrouve hospitalisée. Et là, je me retrouve toute seule, stagiaire, j'allais l'assister, et c'était elle qui faisait toute la consolidation. Et en fait, j'ai tout de suite pris en main, en fait, le job. Et je me suis même pas posé de questions. En fait, c'est avec le recul des ans que je me dis, mais quand même, t'étais complètement folle, comment tu as fait tout ça? Et en fait, je connaissais rien à la conso, parce qu'à l'école, on n'avait pas encore fait les cours de consolidation financière. La consolidation financière, c'est assez technique, je pense que tu dois connaître.
Oui, voilà, plutôt,
c'est assez technique. On avait 50 filiales, on faisait à l'époque 1,3 milliard de chiffre d'affaires, on avait des devises de tous les pays européens. Enfin, c'était hyper compliqué, à l'époque, c'était pas encore l'euro. Et en fait, j'ai pris les choses en main, j'ai ouvert tous les bouquins devant moi. Donc, j'avais le Lefebvre des comptes consolidés, j'avais le manuel du logiciel de consolidation. Et en fait, j'ai géré toute la consolidation toute seule, en ayant un call d'une heure avec ma chef à l'hôpital, une fois tous les deux jours, pour juste lui dire tel sujet, je sais pas comment on fait, qu'est-ce que tu me conseilles, et voilà. Et on a délivré la conso, et on a été dans les temps, et voilà. Et je pense que cette capacité que j'ai à ne pas me poser de questions et à juste faire, juste prendre mes responsabilités et ne pas laisser tomber, j'aurais pu aussi dire, moi je suis stagiaire.
Ouais, c'est pas mon job. Débrouillez-vous,
c'est pas mon job, je suis pas capable de faire ça. C'est une responsabilité énorme, en plus, qu'on consolide. Et en fait, l'idée ne m'est même pas venue. Et je pense que c'est un marqueur, en fait, de tout mon parcours. C'est que face aux événements, mon premier réflexe, c'est de dire, on fait ce qui doit être fait, en fait. On s'interrogera après. Do what is right, c'est just do the job, quoi.
Et ça, là, t'as eu cet événement et je trouve intéressant de, parce que souvent, quand je pense, moi, à mon parcours personnel où j'en discute avec d'autres patrons, il y a souvent un moment charnière comme ça dans leur carrière qui a un peu servi de bascule et qui les a amenés à ça. À ce moment-là, si tu m'en parles, c'est que tu, là, avec le recul, c'est quelque chose qui a été fondateur.
Oui, oui, je pense
que ça se serait pas passé comme ça. Tu crois que ta carrière aurait été différente, moins rapide?
Oui, très certainement. Oui, très certainement. Parce que je pense que moi, ça m'a permis de comprendre des choses sur moi-même. Mmh. Et puis, ça a aussi montré à l'équipe dans laquelle j'étais ma capacité à faire. D'ailleurs, à l'issue du stage, ils m'ont tout de suite embauché. Et j'ai démarré ma carrière comme ça chez eux. Donc, pour moi, ça a été un auto-révélateur important. J'ai dit, oui, en fait, je suis capable. Et souvent, d'ailleurs, dans d'autres, parce que, bien évidemment, des événements dans sa carrière, on en a plein, des moments compliqués, on en a plein. Et souvent, je me suis raccrochée à ce moment-là en disant, rappelle-toi, t'avais 22 ans et t'étais dans telle situation et t'as fait ça, en fait. Et donc, tu en es capable. Et donc, c'est quelque chose qui reste dans mon esprit, comme un marqueur important.
Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, t'aurais mis deux diplômés de l'EDEC dans la même situation, qui avaient peut-être le même background technique, le même diplôme, donc je dirais assez à un niveau d'égalité là-dessus. Finalement, c'est plutôt les soft skills, entre guillemets, qui t'ont permis d'avancer, plus que réellement ta capacité technique. Quand on sort de l'école, je veux dire, la technique, on pense, mais finalement, on sait pas grand-chose. Donc je trouve ça assez intéressant de voir dans les évolutions de carrière que c'est souvent les soft skills, la confiance en soi, la faculté à sortir de sa zone de confort qui fait vraiment évoluer les gens. Je trouve que c'est une bonne leçon. Et donc, tu as cette première expérience, tu as à la suite une carrière très rapide avec une évolution au sein de direction financière jusqu'à finalement rejoindre, donc tu passes par différents groupes et tu rejoins Clear Channel, toujours en tant que DAF. Qu'est-ce qui est clé au moment, enfin si on regarde entre l'évolution entre DAF et DG, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que les gens sont allés chercher chez toi pour finalement accéder à ce poste de dirigeante?
Alors, je pense que j'ai toujours été une directrice financière assez atypique, dans le sens où, alors je me souviens quand j'étais chez Canal, qui était une expérience très très structurante, très très importante pour moi. Je me souviens, on avait fait, il y avait les hauts potentiels et donc il y avait des formations spécifiques pour les hauts potentiels avec des coachs, etc. On nous apprenait tout un tas de choses. Canal était assez avancé sur ces démarches-là. Et je me souviens d'un des animateurs, un des coachs qui nous formait, qui m'avait dit, mais en fait, tu es une directrice financière très atypique. Parce que une certaine capacité à communiquer que peuvent avoir certains directeurs financiers, mais qui sont pas la première qualité qu'on trouve chez les directeurs financiers, une grande capacité à fédérer, une compréhension de l'opérationnel assez fine. Et donc, depuis ce moment-là, chez Canal, je savais qu'à un moment donné, je ne serais plus DAF et que je ferais autre chose. Alors que bizarrement, quand j'ai commencé ma carrière, quand on me disait, mais comment tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans, je me voyais directrice financière. Voilà, c'était un peu l'horizon. Mais voilà, il y avait d'autres choses qui m'attiraient. J'ai toujours aimé le côté très opérationnel. On délivre quelque chose, on construit quelque chose ensemble et j'adore l'équipe en fait. Moi j'adore travailler avec des gens, j'adore être inspirée par l'équipe et j'adore inspirer une équipe. Et donc déjà dans mon expérience avant Clear Channel, j'ai fait un passage rapide chez CBS Outdoor à l'époque qui depuis est devenu Exterion Media puis Girodi. déjà dans la publicité extérieure. Et à l'époque, j'étais vraiment le numéro 2 avec le président, juste derrière le président, et on avait beaucoup travaillé ensemble, et j'avais déjà commencé à prendre un certain nombre de responsabilités, par exemple, sur tous les arbitrages d'investissement. Donc, à gérer, en quelque sorte, finalement, les orientations de patrimoine, en fait, de la boîte. Quand on est dans la publicité extérieure, on gère beaucoup de patrimoine. On gère des contrats partout sur le territoire pour avoir les emplacements où on met nos panneaux, pour faire les choses, pour dire les choses simplement. Et donc, déjà, à ce moment-là, j'avais commencé à développer d'autres de mes compétences et d'autres domaines d'intervention que juste la direction financière. Donc, quand j'ai rejoint Clear Channel, en fait, j'ai pris la direction financière, mais déjà à ce moment-là, c'est une direction financière assez large avec l'informatique qui était dedans, le juridique, les achats, et puis le sujet qu'on appelle le revenu management dans notre jargon, qui est tout vous savez, dans les médias, un peu comme dans l'hôtellerie ou dans l'aérien, on gère les prix en fait en fonction des taux d'occupation. Donc il y a un pilotage des prix au day-to-day en fonction de la pression de la demande pour pouvoir ajuster les prix. Et donc déjà, ce périmètre était assez large. La tech était un sujet pour moi très important, donc la partie informatique, tech, déjà, parce que c'était aussi un moyen pour moi de vraiment être en connexion très forte avec le business et de commencer à servir le business. Donc finalement, l'évolution, elle s'est faite assez vite. Moi, je suis rentrée en mai 2011 et en mars 2013, déjà, je prenais une direction générale adjointe, directement rattachée au président, avec un périmètre déjà beaucoup plus élargi où j'allais piloter toute la stratégie patrimoniale, tout l'aspect de l'offre marketing, l'ERM, donc le revenu management, etc. Donc, ça s'est fait en fait assez naturellement et pour moi, c'était une suite assez logique parce que j'aimais le business en fait. J'avais envie de vraiment être dans la construction de la proposition de valeur et aussi dans la relation avec le client et dans l'interaction autant en interne qu'en externe avec le business.
Et on voit souvent et je pense beaucoup des invités que j'ai eus dans ce podcast ont accédé à des fonctions de DG via la finance qui reste quand même pour beaucoup une très bonne école pour derrière piloter des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus dans le détail ce que fait Clear Channel, vu que je l'ai dit dans l'introduction et t'en as parlé, mais qui est un secteur à la fois intéressant, mais peut-être avec un modèle économique qui est assez peu connu. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur vraiment les services de Clear Channel, ce que vous faisiez et comment fonctionnait l'entreprise.
Alors, Clear Channel, c'est une entreprise de publicité extérieure ou de communication extérieure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on exploite des panneaux publicitaires, alors qui peuvent être digitaux ou papier, un peu partout sur le territoire, et on fait de la publicité et de la communication au sens large sur ces dispositifs. Le modèle économique, il est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans une activité qui a deux typologies de clients en vrai. Il y a ceux qu'on imagine assez naturellement, c'est-à-dire les annonceurs qui vont utiliser nos supports pour communiquer. Alors ces annonceurs, c'est des marques, c'est des grands groupes, mais ça peut être aussi, ça peut être une collectivité, ça peut être les pouvoirs publics, etc., qui ont besoin de prendre la parole. Et puis, on a une autre typologie de clients qui est très importante, c'est ceux avec lesquels on va travailler pour installer nos panneaux, et notamment les collectivités locales. Nous, on fait à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, Clear Channel fait 50% de son chiffre d'affaires dans le segment qu'on appelle du mobilier urbain. Et le mobilier urbain, qu'est-ce que c'est? C'est des contrats par lesquels le Clear Channel a un accord avec une collectivité, va fournir du matériel, des abris voyageurs notamment, des abris bus, des panneaux d'information, des bancs, des poubelles, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le mobilier urbain. Ça va être fourni par une entreprise comme Clear Channel qui va le financer, qui va l'entretenir et le maintenir sur toute la durée du contrat. En contrepartie, la société va exploiter les espaces publicitaires et assez souvent, en plus, rétrocéder de l'argent à la collectivité, rétrocéder un revenu cher, on appelle ça, donc une rétrocession de chiffre d'affaires. Et ça veut dire que à travers ce rôle-là, on a une présence dans les collectivités qui est très importante et on a finalement un rôle dans le fonctionnement de la ville ou de la cité qui est très important. On contribue aux finances de la ville, donc ça va financer des crèches, des routes, des ronds-points et autres choses. Et en même temps, on a une présence physique, on a un mobilier qui est là et qui rend un service aux citoyens à double titre, parce que c'est un mobilier qui abrite de la pluie, propose un banc, etc. Ça, c'est l'élément, on va dire, immédiat et évident. Mais c'est aussi un mobilier qui va servir à l'information du citoyen, puisque nos mobiliers sont utilisés à 50% pour de la publicité et à 50% pour la communication de la ville. Donc, la ville va pouvoir parler de ses initiatives, des urgences, etc. Puis, de plus en plus, avec l'arrivée du digital, alors nous on appelle ça le DOH, le Digital Out of Home, avec l'arrivée du DOH, bah c'est en plus des écrans digitaux, c'est-à-dire avec la capacité d'être dans l'immédiateté, la spontanéité, voilà, la flexibilité. Et là, c'est aussi un élément très important. Alors, encore une fois, bien sûr, c'est très utile pour les annonceurs, mais c'est aussi utile pour une communication non publicitaire parce qu'on va être dans des contenus qui vont être plus riches. C'est-à-dire que la collectivité va pouvoir avoir des spots de, par exemple, 30 secondes où à travers 30 secondes, elles vont pouvoir expliquer une initiative, sensibiliser le citoyen à ceci ou cela, alerter sur un sujet donné. Et comme le digital est planifiable de façon très fine, en plus, on va pouvoir avoir un message qui est différent le matin, le midi, le soir, en fonction aussi des gens qu'on va avoir et qui passent à cet endroit-là, suivant les moments de la journée ou suivant les moments de la semaine. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes personnes qui passent le week-end et la semaine. Et donc, ça devient tout d'un coup un outil de communication pour les collectivités qui est assez extraordinaire pour faire passer leur message, faire comprendre ce qu'elles font. Et d'ailleurs, pas que les collectivités, mais c'est aussi les pouvoirs publics. Quand on a été à la période de Covid et post-Covid, où il y avait vraiment besoin de communiquer beaucoup vis-à-vis des citoyens sur les problèmes sanitaires, bien évidemment, sur les précautions à prendre. Le gouvernement a aussi beaucoup utilisé ce support média, parce que c'est un support qui a l'avantage, et c'est certainement le dernier, de s'adresser absolument à tout le monde. C'est-à-dire que, bien sûr, la télévision, c'est un énorme mass-média, mais en vrai, quand vous regardez...
Il y a plus grand monde qui la regarde.
Alors, il y a déjà beaucoup moins de monde qui la regarde. On peut pas dire qu'il n'y a plus personne, mais surtout, la télévision est segmentée. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même audience et les mêmes personnes en face de l'écran quand vous avez un match de foot ou quand vous avez le programme pour le jeunesse ou quand vous avez une émission, une série, etc. Donc, en fait, le seul média qui aujourd'hui est capable de parler à tout le monde sans distinction de population et en même temps, et ce en même temps, il est important, c'est le média de la communication extérieure. Les gens qui passent dans la rue, ils sont de toutes origines, ils sont bien évidemment de sexe, ils sont de tous les âges, de tout milieu social. Et donc, on parle à tout le monde en même temps. Il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de l'agora, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace public commun et on porte un message dans cet espace public commun. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je me souviens quand on était sortis du Covid, du premier confinement qui était sur le printemps 2020, on avait mis sur nos panneaux un message où on disait « Bienvenue dehors, vous nous avez manqué ». Et c'était une façon de redire à quel point cet espace commun, il est fondamentalement important. Pour faire société, c'est un espace démocratique par essence. Et nous, on est très, très attachés à ça. Alors, j'ai encore tendance à dire non, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai quitté Clear Channel, et puis j'aime beaucoup cette industrie, et puis j'aime beaucoup cette entreprise. Et voilà, dans ce que j'ai essayé de construire dans cette entreprise, il y a cette idée, justement, de s'adresser à un commun, de s'adresser à un collectif complètement divers, complètement à l'image de la France, puisque c'est la France à laquelle on s'adresse quand on est dans la rue comme ça.
Si on en revient juste utiliser au modèle économique, donc en fait les collectivités ne dépensent rien pour ce mobilier urbain, voire même elles gagnent de l'argent via des rétrocessions des annonceurs. Donc finalement tous les revenus générés par Clear Channel, c'est via les annonceurs.
Alors oui, la totalité du revenu que peut avoir une entreprise comme Clear Channel vient de la publicité. Alors il y a parfois des exceptions, il y a des fois où la collectivité achète le matériel et puis et on l'exploite et on rétrocède. Et bien évidemment, la logique économique, c'est qu'au final, la ville y gagne beaucoup plus que l'investissement initial qu'elle a pu faire. Mais le modèle le modèle dominant, est bien un modèle dans lequel on investit, on entretient, on maintient à nos frais et en plus, on rétrocède de la redevance.
Donc tu es toujours finalement entre deux, à piloter deux écosystèmes différents, les collectivités locales d'un côté et puis les grandes entreprises qui, elles, font passer leur message sur votre matériel.
Absolument. Et on n'a pas que les collectivités, parce qu'on parle beaucoup des collectivités, ça représente 50% de notre chiffre d'affaires, mais on travaille aussi beaucoup avec les opérateurs de transport. Là aussi, c'est très important. On fait de la publicité sur des bus, on fait de la publicité dans le métro, on est présent dans le métro de Lyon et dans le métro de Toulouse. Et en fait, quand on fait de la publicité sur les véhicules de transport ou dans les gares ou dans les, etc., on est aussi un financeur important des transports en commun. Et ça, c'est un point essentiel, en fait. On contribue aux finances des opérateurs de transport.
Le secteur a été challengé à un moment donné pour son impact, pour certains disaient les nuisances dans l'espace public, etc. Quelle est ta position, enfin, et comment t'as géré ces situations? Parce qu'il y a eu quand même un véritable challenge sur le fond de ce service.
Oui, oui, absolument. Il y a un challenge très fort. Et d'ailleurs, il y a eu au moment du Covid, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était En même temps qu'il y a eu le confinement et toute la crise sanitaire, la Convention citoyenne pour le climat arrivait à ses conclusions. Et les conclusions avaient dû être données, je crois, en mai, chose comme ça. Et les conclusions, c'était que parmi les 149 propositions de la Convention citoyenne, il y en avait trois qui concernaient la publicité, dont deux sur les trois qui concernaient la publicité extérieure. Et effectivement, la publicité extérieure a très souvent été montrée du doigt comme étant quelque chose, au moins un obstacle à la transition écologique, quelque chose qu'il fallait restreindre, voire supprimer. Et en fait, moi, j'interprète ça assez simplement. C'est-à-dire que la publicité extérieure, elle est dans la rue. Et les gens ne réalisent pas beaucoup, souvent, quand ils ont un portable dans la main, ils ne réalisent pas à quel point cet outil-là est en fait d'abord un véhicule de publicité énorme, puisque la publicité est en soi un sujet qui est souvent attaqué, mais aussi un outil qui consomme énormément, lui en tant qu'objet, mais aussi tout l'écosystème qui est derrière. Mmh. Et donc, il y a cette idée que ce mobilier qui est dans la rue, il consomme de l'électricité, c'est pas bien, et en plus, à quoi il sert? Il sert à nous dire qu'il faut consommer. Et donc, c'est vrai que le premier moment, si tu veux, où il y a eu vraiment une attaque très forte contre les médias, c'est à ce moment-là. Et c'était pas particulièrement difficile pour nous, parce que ça arrivait à un moment où, en plus, on était hyper fragilisés économiquement, puisque, bien évidemment, médias de la publicité extérieure, il y a plus personne dans la rue, donc notre chiffre d'affaires s'est effondré, on était à moins 90% de chiffre d'affaires, quand même, sur la période du confinement, du premier confinement. C'est hyper, hyper violent. Et en fait, moi, je me suis posé la question à ce moment-là de qu'est-ce qu'on fait? Et tu l'as dit tout à l'heure dans l'introduction, mais moi, j'ai des convictions écologiques très, très fortes depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, pour plein de raisons, on pourra y revenir. Et là, je me dis, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et qu'est-ce que ça veut dire être un média dans la rue? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la transition écologique? Et du coup, j'ai fait le choix à ce moment-là de me dire, d'abord, on va prendre ce sujet-là à bras-le-corps. Et j'ai décrété que notre stratégie allait avoir deux pieds, deux axes importants. La digitalisation du média au sens large et la transition écologique. Et j'ai dit, en fait, nous sommes les meilleurs alliés en tant que médias de la transition écologique. Pourquoi? Parce que déjà, on est l'allié des collectivités, que les collectivités ont besoin de transformer leur vie, leur fonctionnement. Et finalement, nous, on est dans la rue, on propose des abribus, on aide la ville à s'adapter à une mobilité qui va bouger dans le temps, qui va, on l'espère, aller de plus en plus vers une mobilité douce ou une mobilité de transport en commun. Donc, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et être au service de la ville dans cette transformation-là? Mmh. Et puis, autre chose, on a une responsabilité. Puisqu'on parle à tout le monde, je disais tout à l'heure, on a la chance de parler à toutes les audiences, mélanger, etc. Si on est là, on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, ma conviction, c'est que la publicité, le mot à l'origine veut simplement dire rendre public. C'est ça, la publicité. Est-ce qu'on a résolu le problème si on supprime la publicité? D'abord, si on supprime la publicité extérieure, on n'a pas résolu le problème, on en a fait la démonstration. La publicité va sur d'autres supports. C'est comme ça que ça se passe et ça s'est vu de façon hyper concrète au moment du Covid, puisque on l'a vu, les budgets se sont dépassés. L'investissement publicitaire n'a pas diminué. Il est juste allé sur
d'autres supports.
D'autres supports, et notamment des supports web ou réseaux sociaux, etc. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je suis pas complètement convaincue, d'autant plus que la publicité extérieure est hyper réglementée et que ce qu'on met sur nos panneaux est super contrôlé, ce qui est pas le cas quand on est sur le web.
Les budgets sont restés les mêmes pendant le Covid?
Les budgets sont restés les mêmes. Ouais. Grosso modo, ils sont restés les mêmes. Et ceux qui ont beaucoup augmenté, bien évidemment, c'est ceux qui ont fait des croissances très, très fortes dans les périodes de confinement. C'est les réseaux sociaux, puis c'est les GAFA, en fait, pour dire les choses simplement. Et donc, la responsabilité que nous, on a prise, c'est de se dire, si on est ce média qui s'adresse à tout le monde, comment on fait évoluer la publicité? Parce que la publicité, elle est juste un miroir de la société. Hein. Nous, on a fêté nos 100 ans en 2021 et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette occasion-là? En fait, on a retracé 100 ans d'histoire de la publicité extérieure. Et on a montré à quel point, finalement, ce support-là, ce média-là, il a été toujours en connexion très forte avec les évolutions sociétales, avec la perception du monde, pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs. Hein. Voilà, moi, souvent, je prends cet exemple-là parce que ça m'a toujours beaucoup agacé parce que j'ai un côté un peu féministe. Mais quand on voit comment la publicité a fait émerger une image de femme au foyer, très soumise à son mari, qui fait en sorte que tout soit beau, etc. On a toutes ces images des années 50-60, en sortir de la guerre, venue des États-Unis. On voit la jolie femme blonde avec un joli tablier qui prend soin de son mari, etc. Alors, pour une femme comme moi, c'est absolument exaspérant. Mais on voit bien. Ça, c'est une image qui a été façonnée par la publicité. C'est la publicité qui a construit cette image-là, qui n'était pas le rôle et la posture des femmes américaines avant la guerre. Donc, on voit bien que la publicité peut faire des choses dangereuse, mais ouais, elle peut
l'industrie
aussi...
L'industrie du tabac, beaucoup
exactement,
joué
l'industrie du tabac.
Le cowboy Marlboro, etc.
Voilà. Complètement. Mais la publicité peut aussi casser des stéréotypes, peut commencer à changer des imaginaires. C'est la publicité qui commence à mettre des visages différents, parfois, qui casse des stéréotypes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub des rames où on voyait un monsieur avec des talons aiguilles qui était un monsieur nu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub des années 80, etc. Mais voilà, c'est aussi, parfois, la publicité qui a pu prendre les devants par rapport à des signaux faibles de la société pour justement commencer à casser des codes et à bouleverser des perceptions. Quand la publicité fait ça, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'on peut aimer la publicité parce qu'elle est capable de bouger. Et ce que je me suis dit, moi, en tant que dirigeante de Claire Chanel, c'est que on pouvait, avec l'ensemble de la filière, parce que ça ne se joue pas uniquement sur un support comme la publicité extérieure, mais on pouvait, en tant que filière, repenser la manière dont on prenait la parole avec les annonceurs, avec les agences créa, avec les supports, avec les régies, on pouvait réfléchir à la manière dont la publicité allait pouvoir changer les imaginaires. Et justement, aider à faire émerger d'autres futurs désirables. La publicité nous dicte depuis longtemps qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui fait envie. Et on le voit, je prends l'image des femmes parce que la femme a été beaucoup utilisée dans la publicité. On voit bien, si on regarde comment les femmes sont représentées dans la publicité, comment finalement ce qui est sexy a changé dans le temps. Marilyn Monroe ne faisait pas une taille 34, hein. Voilà. Et pourtant, c'était la femme la plus sexy du monde. Et puis aujourd'hui, il y a quelques années, maintenant ça change et heureusement, on a pu voir des femmes hyper filiformes. Si on est capable de façonner comme ça à travers la publicité et d'avoir cette influence-là, ben pourquoi est-ce que on n'arrive pas à faire émerger, et moi je pense qu'on peut le faire, d'autres images de ce qui peut être séduisant, qui peut faire envie. Si un homme sexy, c'est un homme qui est sur un vélo et pas un homme qui est dans une grosse voiture qui roule à toute berzingue sur une autoroute, on commence à changer les imaginaires. Et donc, on commence à faire émerger un modèle de société différent. Et je pense que l'avenir de la publicité, il est là-dedans. Il est dans le fait d'accompagner vraiment, complètement, la transition écologique. Parce que cette transition écologique, elle est très dépendante de nos comportements. Elle est très dépendante de nous en tant que citoyens. Comment on va manger demain? Qu'est-ce qu'on veut manger? Comment on veut se comporter? Comment on veut se déplacer? Qu'est-ce qu'on va exiger des industries? Qu'est-ce qu'on va exiger des gouvernements? On vote avec notre ticket de caisse, comme on dit, ou avec notre carte bleue. Et donc, moi, je crois pas que la simple sensibilisation, les discours, expliquer que le monde va dans le mur, etc. Je pense que ça suffira pas. Tout simplement parce que le cerveau humain, il comprend, il fonctionne pas comme ça. On le voit, et les scientifiques eux-mêmes le disent, en fait. On a beau expliquer, les gens le savent. Il y a encore quelques gens qui continuent à penser qu'il n'y a pas de réchauffement. Voilà,
encore
sceptiques. Mais je crois qu'aujourd'hui.
Mais on avance quand même, oui.
Oui, je pense que c'est pas tant le scepticisme qui est un problème. Parce que malgré tout, il y a de moins en moins de sceptiques. Le problème, c'est que même les gens qui ont compris, il suffit pas pour eux qu'ils aient compris, pour qu'ils commencent à bouger. Et si on veut les faire bouger, les gens bougent pas par la culpabilité ou par la peur ou par la raison. Les gens, ils bougent parce que tout d'un coup, il y a un avenir différent qui se dessine pour eux dans lequel ils peuvent se projeter avec bonheur.
Et il faut qu'ils puissent se dire, on va. La publicité peut aider à faire accélérer.
Je pense que la communication a un rôle très important à jouer. Je pense que la communication extérieure a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Et oui, la publicité, en tant que filière, a un rôle fondamental à jouer là-dedans. C'est certain. C'est certain. Et donc, on a imaginé une offre spécifique pour les entreprises à impact, et notamment les entreprises à impact qui font moins de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, en disant, vous venez vers notre média. Parce que notre média, il est d'habitude très cher pour ces entreprises-là. Elles se sentent pas, elles n'ont pas toujours la capacité à aller investir. On a fait des offres spécifiques, bien évidemment beaucoup plus accessibles financièrement, avec un accompagnement même en termes de création, parce que c'est pas facile d'utiliser le média. Il faut pouvoir créer, enfin, avoir un visuel, etc., qui porte le message. Donc, on va vers ces entreprises-là, on leur dit, vous, venez sur notre média et faites-vous connaître. Parce que ce qui fera changer aussi le monde, c'est que ces entreprises, souvent françaises, locales, qui inventent, j'en sais rien, moi, le jean qui a pas besoin de faire trois fois le tour du monde pour arriver dans nos magasins, ceux qui inventent de nouveaux produits, de nouveaux services, des shampoings solides, sans emballage, voilà, ceux qui font du vrac. Toutes ces entreprises-là qui sont en train de construire le monde de demain, on leur ouvre un espace, on dit, venez chez nous, à des conditions préférentielles, si vous avez un label, alors bien évidemment, ça s'appuie sur des labels qui attestent, parce qu'on, encore une fois, c'est pas nous qui décidons qu'une entreprise est bonne ou non, il y a des tiers valables qui le font, et donc ces gens-là, on les invite à venir prendre la parole sur nos mobiliers.
Je voudrais en revenir un peu plus à toi et à tes combats. Donc, on a parlé de tes engagements à la fois aujourd'hui sur la transition écologique, mais qui ne date pas uniquement d'aujourd'hui. Et je voudrais aussi qu'on parle, vu qu'on verra dans quelques jours la Journée mondiale du droit des femmes. Et je te sais très engagé sur le sujet. Et tu l'as déjà évoqué à quelques moments. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire ce combat d'où il vient? J'imagine qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui peut-être vient même de ton plus jeune âge, mais finalement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour œuvrer pour l'égalité homme-femme? C'est un sujet qui, nous, chez BDO, nous tient à cœur. On est partenaire de beaucoup d'événements et on essaie de pousser des initiatives pour lutter contre ces inégalités. Mais voilà, toi, quelle est ta vision sur le sujet? Où est-ce que tu penses qu'on en est? Parce que je pense qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits. Et voilà, quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur la situation?
Alors, effectivement, le sujet, pour moi, il est très important. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents féministes, donc j'ai été élevée dans un monde féministe. C'est intéressant, en fait, étant fille de militant, moi, dans mon approche, quand j'étais jeune, je n'ai pas choisi le militantisme. Je ne voulais pas être militante. Ce que je voulais, c'était démontrer par mes propres réalisations qu'une femme était capable d'eux. Donc, je voulais prouver, en fait. Et parce que dans un écosystème marocain qui plus est, même si j'avais la chance d'être dans une famille très ouverte et très égalitaire, c'était pas le cas de la société dans sa globalité. Donc je voyais bien à quel point il était très difficile pour une femme, pour une fille et puis ensuite pour une femme, de s'épanouir pleinement et d'avoir les mêmes chances et la même possibilité de se développer. D'ailleurs, quand j'ai voulu partir en France pour faire mes études, j'ai eu des tas de réflexions, même y compris dans mon entourage familial proche, pas mes parents, mais autour, de gens qui ont essayé de me dissuader en me disant « mais t'es qu'une femme, en gros, pour faire simple, tu vas pas aller faire dépenser une fortune à tes parents pour aller faire des études en France, alors que bon, t'es qu'une femme, quoi, tu vois, tu pourrais rester au Maroc, ce serait très bien. » Et donc, j'avais vraiment une soif d'abord de prouver. Pour moi, c'était le plus important, montrer qu'on est capable. Et donc, pendant très longtemps, dans ma façon de gérer le sujet de l'égalité femmes-hommes, j'étais dans ce combat de prouver que je pouvais. Et si je le prouvais à travers mon propre expérience, alors je contribuais à faire changer l'imaginaire ou la perception que les gens pouvaient avoir des femmes. Et ça a été mon combat pendant très longtemps. Et en fait, ça n'est que quand j'ai pris, vraiment, je pense qu'au moment où j'ai pris la direction générale chez Claire Chanel en fin 2016, que là, je me suis dit, en fait, tu ne peux plus te contenter de ça. Tu peux plus simplement prouver que tu es capable de. J'étais arrivée quand même à un poste que pas beaucoup de femmes arrivent à obtenir, d'être directrice générale dans une entreprise de cette taille-là, une entreprise qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. Voilà, tu peux plus t'arrêter là parce que maintenant, il faut que tu tendes la main aux autres femmes. Il faut que tu les aides à aller plus vite. On peut pas continuer à avancer comme ça. J'irai juste avec des femmes un peu héroïques qui essaient de franchir les étapes. Et j'ai commencé à me soucier de ce sujet-là en interne. Et très honnêtement, Claire Chanel, quand j'y suis rentrée, moi, en 2011, c'est encore une entreprise très, très masculine, parce que c'est un métier quand même assez physique. Hein. Nous, dans notre métier, il y a des gens qui affichent. Donc, c'est pas... Ça demande de la force, etc. Et donc, il y avait une dominance très forte d'hommes et d'hommes blancs, d'ailleurs. Voilà. Et dans les directions d'hommes blancs depuis de 50 ans. Voilà. Donc, j'étais un peu dans une espèce de caricature et donc il a fallu changer les choses. Et donc j'ai pris ce sujet-là vraiment à bras le corps à ce moment-là. Et la première chose, c'était de commencer à en parler. Commencer à dire, en fait, c'est important. Et oui, c'est un sujet. Et il va falloir adresser les choses. Et au début, bien évidemment, entre ceux qui riaient doucement sous cap et ceux qui disaient, oui, mais tu sais, on va jamais trouver des femmes capables d'aller faire de la publicité, etc., ou d'aller couvrir des territoires. On a un métier qui couvre vraiment la totalité de la France avec des directions en région qui couvrent parfois des territoires immenses. Et donc, bien évidemment, les femmes ne sachant pas conduire en France, elles ne pouvaient pas couvrir des territoires aussi importants. Voilà. Donc, il a fallu vraiment casser plein de verres. Mais si un homme est capable de le faire, pourquoi une femme ne pourrait pas le faire? Et si une commerciale est capable de le faire, pourquoi une directrice technique ne serait pas capable de le faire? Et donc, petit à petit, il a fallu commencer à lutter contre tous ces préjugés. Et puis, bien évidemment, il y a tous les dirigeants qui sont là, tous les directeurs de ceci, de cela, qui sont tous des hommes et puis qui, tout d'un coup, ont peur et qui se disent « oulala ». Mais alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, mon poste, il est menacé. Donc, il a fallu aussi rassurer les hommes en disant « mais jamais, on va pas faire partir des hommes compétents pour faire venir des femmes. Ce serait complètement, complètement idiot. Donc non, c'est pas ça le sujet. C'est, on va essayer de changer. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de changer? Parce qu'il faut quand même donner une justification. C'est une affaire de justice, les femmes ont le droit à ci et ça. Mais moi, en fait, mon premier argument, ça a été de leur dire, on est le média de la rue. On passe notre temps à dire qu'on s'adresse à tous, à toutes les audiences. On ne peut pas être le média. Nous, on n'est pas Elle Magazine ou l'Autojournal. Nous, on est le média qui est au cœur des villes, dans les abribus. Donc devant nous, il y a des gens pauvres, il y a des gens riches, il y a des gens noirs, il y a des gens arabes, il y a des gens blancs, il y a des hommes, des femmes, bien évidemment, des gens de tous les âges, il y a des orientations sexuelles différentes devant nous. Si on prétend parler à ces gens-là, est-ce qu'il faudrait pas qu'on leur ressemble un peu? Est-ce que vous ne pensez pas que si on ne leur ressemble pas, on ne saura pas très très bien comment leur parler et qu'on va se tromper, qu'on va faire des erreurs? Donc, il nous faut de la diversité. Donc, ça a commencé comme ça. Et quand j'ai commencé, j'ai fait une espèce de campagne interne. C'est-à-dire que je suis allée, j'ai fait le tour de France. Je suis allée dans quasiment tous les grands sites. On est sur 40 sites en France. Et je suis allée voir, j'ai regroupé les équipes et je leur ai expliqué. Au début, j'ai fait que expliquer pourquoi la diversité et l'inclusion, c'est important. Qu'est-ce que ça génère, la non-inclusion? Comment on lutte contre ça? Qu'est-ce que ça veut dire, un bien inconscient? Qu'est-ce qu'on a à y gagner, les uns, les autres, etc. Et en fait, ça a beaucoup plu, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens que ça a enthousiasmé, des gens qui ont eu envie de ça. On a du coup désigné des ambassadeurs partout en France. On a dit, vous allez être nos champions, vous allez nous aider à construire ça. Et on va le faire ensemble, et on va le faire progressivement. Et petit à petit, ça a pris. Et comme on est un média, je me suis dit, il faut qu'on le fasse en interne et en externe en même temps. Il faut qu'on fasse les deux. Et donc, on a commencé à se poser la question de comment on utilise notre média pour favoriser d'abord l'égalité femmes-hommes. Alors, pourquoi on commence par l'égalité femmes-hommes? Je sens qu'ils posent la question, pour moi, c'est une évidence, mais parce qu'accessoirement, les femmes, ça représente 50% de la population, et des hommes aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est normal de commencer par ce qui n'est pas une minorité, mais la parité de la société elle-même. Et donc, on s'est dit, on va commencer par le sujet de l'égalité femmes-hommes. Et on a pris un deuxième sujet de diversité qui nous tenait à cœur chez Claire Schneider depuis très longtemps, c'était celui du handicap. Et qui avait été un sujet qui avait été pris par les collaborateurs bien avant mon arrivée. On soutenait déjà depuis très très longtemps la Fondation Personnage. Alors, ça doit faire 30 ans qu'on soutient la Fondation Personnage chez Claire Schneider. Donc, c'est vraiment un partenariat de très longue date. Enfin, c'était un sujet que des équipes avaient pris en main et puis on s'est mis à leur offrir de l'espace gracieux. Et voilà, donc il y a un lien d'amitié qui s'est construit comme ça dans le temps. Et ce sujet du handicap tenait à cœur aux gens. Et je le comprends parce que le handicap, c'est le sujet qui touche tout le monde en vrai. Homme ou femme d'ailleurs, mais qui touche tout le monde parce que d'abord, on peut tous être confrontés au handicap un jour dans notre vie, et on le sait, ou alors on est vraiment très optimiste. Voilà. Et puis, on a tous, malheureusement, dans sa vie proche, on a des gens qui sont en situation de handicap. Et donc, il y avait le sujet du handicap et le sujet femmes-hommes. Et on s'est dit, on va d'abord commencer par ça. Et comment on l'a fait sur nos supports, sur le sujet femmes-hommes, c'est qu'on s'est dit, on va faire deux choses. Un, on va mettre nos supports au service d'associations, etc., qui parlent de la protection des femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes, etc., de la scolarisation des petites filles. Sujets qui sont plutôt, on va dire, protection et prévention de ce que subissent les femmes de désagréable ou de dramatique. Et on va pas s'arrêter à ça parce que les femmes ne sont pas des victimes. Les femmes, c'est aussi des femmes puissantes qui contribuent à la société et à sa construction et à son éclat. Et donc, en parallèle de ça, on s'est mis à promouvoir des rôles modèles, des femmes puissantes, des femmes qui réussissent, des femmes qui, justement, cassent les stéréotypes et montrent ce qu'elles sont capables de faire. Et donc, on a noué des partenariats, alors avec le Women's Forum, mais aussi avec une structure comme Business au Féminin, je sais pas si tu connais, qui organise tous les ans un concours pour les entrepreneurs des start-upeuses femmes, pour donner un espace, justement, montrer qu'il y a des femmes qui entreprennent, montrer qu'il y a des femmes qui dirigent des entreprises, montrer qu'il y a des femmes qui sont championnes du monde, de ceci ou cela, en sport olympique, paralympique, montrer aussi des femmes scientifiques. En fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on aide finalement le grand public à normaliser, banaliser le fait qu'une femme soit capable d'avoir tout type de job, dans tout type de registre. Et donc, cette idée des femmes puissantes, rôle modèle, qu'on met dans la rue. Et on a fait ça petit à petit, Et donc, on utilise très, très régulièrement nos supports pour ce genre d'initiative. Et cet écho entre ce qu'on montre sur nos panneaux et ce qu'on fait en interne a permis, en fait, de bouger l'entreprise de façon assez spectaculaire en quelques années, finalement. Et aujourd'hui, Claire Chanel, c'est une entreprise où c'est l'indice égalité femmes-hommes. Ça représente pas tout, mais on est quand même à 98 en termes d'indice d'égalité femmes-hommes, ce qui est pas mal. Peu d'entreprises peuvent se vanter d'avoir un score aussi bon. Et puis, on est une entreprise où je pense qu'il fait bon vivre, où les gens sont heureux, où il y a des femmes à des postes poste de très grande responsabilité. J'ai notamment fait venir au sein du COMEX, quand j'ai pris la présidence en fin février 2020, j'ai mis deux femmes à des postes très très importants. La directrice des opérations chez nous est une femme. Alors les opérations chez nous, c'est tous les afficheurs, c'est tous les gens qui... c'est les plateformes où on prépare les affiches et c'est les gars sur le terrain. Voilà. Donc, c'est vraiment, s'il y a une fonction qui est aujourd'hui très masculine, c'est bien celle-là, encore aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, dans les postes de direction au sein de la direction des opérations, bon, à la tête, il y a une femme. Et puis, il y a des femmes à des postes très, très importants dans cette direction-là. Et c'est vraiment bien. Ça apporte quelque chose. Ça permet de sortir aussi de justement d'une direction très viriliste et très... avec une hiérarchie très... adjudant-chef, pour rentrer dans quelque chose où on est aussi dans ces fonctions-là, qui sont des fonctions très techniques, dans un leadership plus nuancé, où il y a une façon d'appréhender les choses un peu différente. Et ça a réellement apporté quelque chose dans cette direction d'opération. Et la deuxième direction très importante chez nous, c'est la direction commerciale, et là aussi, elle est dirigée par une femme. Et donc, on a un COMEX où on est trois femmes, moi-même, et puis les deux plus grosses fonctions opérationnelles sont tenues par des femmes. Et la RH est tenue par un homme. Parce que souvent, on dit, oui, mais on met des femmes à la RH. Ben non, nous, on a fait un choix un peu différent. Et ça bouscule et ça permet de changer les choses dans l'organisation.
Et sur le côté, un des risques, souvent, c'est d'être la femme quota ou d'avoir été mis là parce qu'on a été une femme. Moi, j'entends beaucoup, soit des dirigeantes que j'ai interviewées, soit dans les entreprises ou dans les écosystèmes avec lesquels on discute, de dire, finalement, il y a aussi ce risque maintenant, c'est que quand on promeut une femme, que le reste de l'organisation se dise, OK, elle est là parce que c'est une femme. Comment tu luttes contre ça et comment ça s'est accompagné finalement cette façon? Moi, je sais que, je le dis, on a changé notre gouvernance au 1er janvier, qui est aujourd'hui paritaire. J'ai beaucoup lutté, contre le fait qu'on puisse imaginer que les femmes qui étaient aux responsabilités ont été mises là simplement parce que c'était des femmes. Mais simplement en disant, on a cherché de la compétence et il se trouve que cette compétence-là, mais j'avais quand même à cœur qu'elles-mêmes ne se sentent pas positionnées à un poste de responsabilité simplement parce qu'il fallait avancer sur la diversité. Est-ce que tu as été, comment tu l'as géré ça?
C'est une vraie question et je me souviens quand j'ai nommé notamment la directrice commerciale. Donc le directeur commercial qui était là précédemment est parti et donc c'était un homme et on l'a remplacé par une femme qui était une personne en interne. Et j'ai eu des réactions. J'ai eu des réactions des collaborateurs. Alors moi je fais tous les mois ce que j'appelle un rendez-vous entre nous, j'appelle l'entre nous, qui est une espèce de Teams live avec l'ensemble des collaborateurs et où je laisse un espace d'échange où les gens me posent des questions sur le chat et je réponds à toutes les questions. Et quand j'avais nommé cette directrice commerciale, j'avais eu cette question-là. Mais alors, est-ce que, Madame Araki, est-ce que vous allez virer tous les mecs pour nous mettre des femmes à la place? Et donc, il a fallu réagir à ça. En fait, le point important, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre à ces fonctions-là des femmes qui étaient vraiment très, très compétentes et dont la légitimité ne pouvait pas être mise en cause. Et d'ailleurs, ce que j'avais répondu à ce moment-là par rapport à la nomination de cette femme-là, c'est que je dis, mais cette femme-là était directrice commerciale du digital. Ça devait faire 20 ans, peut-être qu'elle était dans la maison. Elle a vraiment accompagné toute l'émergence du digital. Parce que le digital est arrivé dans les années en 2011, juste après mon arrivée. On a commencé le DOH, ça n'existait pas avant. Et elle a accompagné tout ça. Elle a montré ci, elle a montré ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est capable de me dire qu'elle n'est pas capable de prendre ce job-là? Est-ce que quelqu'un doute des compétences de Sylvie Dugard? Et la personne ne répond. Et en l'occurrence, c'est une excellente commerciale. Et donc, quand on nomme quelqu'un qui est compétent, oui, il y aura toujours des esprits chagrins pour vous dire oui, non, mais c'est parce que c'était une femme. Et en plus, comme j'étais une femme à la tête de l'entreprise, t'es un homme, donc on peut dire bon. Mais moi, j'étais une femme, donc on se dit, c'est une dirigeante femme, donc maintenant, elle va nous mettre des femmes partout. Et donc, il faut être très, très, très robuste, et puis il faut avoir avec soi, il faut nommer des femmes compétentes. Il y a des femmes compétentes, donc il faut mettre des femmes compétentes, bien évidemment. Et après, c'est la preuve. C'est par la preuve que ça se fait. Et donc, il y a des esprits chagrins qui critiquent. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui serait capable de dire Sylvie Dugard n'est pas la bonne directrice commerciale. Ce sujet se pose même plus. Et donc, petit à petit, ces esprits chagrins, ils se taisent. Et puis, tout ça exprime aussi des peurs, en fait. C'est toujours cette inquiétude d'un certain nombre d'hommes de se dire, mais alors, je vais être concurrencée par d'autres femmes qui vont potentiellement prendre mon opportunité à moi. Et en fait, petit à petit, je pense que quand l'entreprise devient plus égalitaire et plus ouverte et plus diverse, en fait, chacun voit l'intérêt qu'il peut y trouver, y compris les hommes blancs de plus de 50 ans. Ils finissent par se rendre compte qu'en fait, ce monde divers, c'est aussi un monde dans lequel eux-mêmes sont plus à l'aise. On a tous une diversité. n'y a pas un bloc qui est à peu près homogène et cohérent qui serait les hommes blancs depuis 50 ans. Même là-dedans, il y a de la diversité. Et puis les autres, c'est pas vrai. Chacun a sa singularité. Si on fait de l'espace à la singularité, alors il y a des espaces aussi pour les plus seniors. Aujourd'hui, on pose cette question-là aussi dans les entreprises. Comment les seniors peuvent continuer à apporter leur contribution et pas être considérés comme has-been parce qu'ils ont passé les 50 ans ou les 55 ans? Comment on change ça? Mais c'est aussi en considérant les singularités. C'est aussi en se disant, ben, cet homme-là ou cette femme-là qui a passé les 50 ans, elle n'est peut-être pas aussi agile sur les réseaux sociaux que le gamin de 20 ans ou le jeune de 25 ans. Par contre, elle a un savoir-faire et une expérience qui est extraordinaire. Et ça, ça a de la valeur. Donc, dès lors qu'on commence à se dire, chacun apporte de la valeur, en réalité, on ouvre la porte à tout le monde et on garde la porte ouverte à tout le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens adhèrent.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur la situation, je pense, malgré, on voit, tu vois,
oui.
J'ai souvent discuté avec des invités sur la problématique des quotas, non, pour lesquels j'étais pas forcément pour à un moment donné, mais qui a quand même permis d'accélérer dans beaucoup d'entreprises. Mais malgré tout, il y a encore ces biais naturels contre lesquels il faut quand même lutter, parce qu'on est loin quand même d'être arrivé à une situation
bien
où c'est le fait même qu'on en parle démontre bien qu'il y a encore, un sujet. Je voudrais te poser deux, trois questions peut-être un peu plus personnelles, vraiment sur ta façon de gérer la pression qui est quand même associée au poste de dirigeant. Je dirais, encore une fois, je dis toujours, on est toujours très fort quand on est dirigeant d'une entreprise pour dire à quel point tout ce qu'on a fait était génial et toutes nos réussites, mais néanmoins, c'est un métier qui est stressant, qui est exposé, il y a le poids des responsabilités. Déjà, est-ce que tu l'as ressenti, toi, quand tu as pris ces fonctions-là, un peu le doute, la crainte, le stress de la fonction? Et si oui, comment tu le gérais? Moi, je dis souvent, on est quand même un peu seul quand on est dans ces fonctions-là et on est assez exposé. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages et est-ce que tu avais, je sais pas, une technique, une manière de gérer ça?
Moi, j'ai été nommée présidente. Donc, jusque-là, il y avait un président exécutif et j'étais directrice générale déléguée. Et j'ai pris la présidence le 25 février 2020.
Ouais.
C'est-à-dire, en gros, deux semaines.
Good timing.
Voilà. Deux semaines avant le confinement, deux semaines et demie avant le confinement. Et bien évidemment, alors les gens se disent, oui, elle était directrice générale, parce que c'est président, ça ne change pas grand-chose. Ça change tout, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est le capitaine. Et alors, je devenais capitaine d'un navire qui, tout d'un coup, était dans un danger grave. Alors, on a tous été bouleversés par le confinement, etc. Ça a bousculé absolument tout le monde. Moi, je venais de prendre la présidence. J'avais besoin d'asseoir ma légitimité, même si les gens me connaissaient dans la maison, j'étais dans la maison depuis très longtemps, etc. Mais quand même, je prenais les rênes. Donc il y avait cet enjeu de prendre la présidence et de convaincre. Et là, à ce moment-là, et cet événement cataclysmique, pour nous, ça voulait dire zéro chiffre d'affaires le lendemain.
90% de baisse.
Et donc, comment on fait? Et donc oui, j'ai la solitude à ce moment-là, elle est énorme. Il y a une peur réelle, peur de se tromper. Et puis, on parlait quand même de la santé des gens. Donc, c'est pas juste une peur de se dire, je vais pas y arriver, est-ce que je vais être... Non, c'est ma responsabilité, c'est de protéger mes collaborateurs. Et à ce moment-là, il faut se rappeler quand même, on avait très, très peur de la maladie. Et donc, c'est de se dire, j'ai la responsabilité, qu'est-ce que je dois faire d'abord et avant tout pour préserver mes gars, pour préserver la santé de mes collaborateurs. Et je me souviens très bien, le dimanche 15 mars, deux jours avant, le président avait annoncé qu'on fermait les écoles. Le confinement n'avait pas encore été décrété, le confinement général. Et le dimanche, je lisais tout ce qu'il y avait partout dans la presse, ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, ce qu'il y avait dans les articles qui se publiaient un peu partout dans le monde. Et je me fais la réflexion, je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que je confine tout le monde. Et donc le dimanche, parce que mes collaborateurs allaient sur le terrain pour afficher. Donc, je me disais, ils vont être hyper exposés, ils sont dans la rue. On a deux usines, on a une à Vissou, près d'Orly, et une à Nîmes, où il y a 50 personnes dans chacune des plateformes qui se réunissent pour préparer des affiches. La proximité, elle est énorme, la promiscuité. Et donc là, je décide qu'en fait, il faut arrêter l'activité. Et donc, j'appelle le dimanche, en milieu d'après-midi, j'appelle mon COMEX, et je me dis, c'est ma première décision majeure de dirigeante, et je vais leur dire un truc, et si ça se trouve, ils vont penser que je suis frappadingue. Et donc, je les appelle et je leur explique. Et je leur dis, voilà, c'est bien sûr, on ne va pas honorer nos campagnes, bien sûr, on va perdre du chiffre d'affaires, peut-être que ça va mettre l'entreprise dans une situation économique absolument dramatique, mais pour l'intérêt des collaborateurs, je pense qu'il faut qu'on confine tout le monde. Et donc, j'ai décidé qu'on allait arrêter l'activité demain matin, que chacun rentrait chez lui. Et maintenant, je veux bien avoir votre avis. Et j'avais une peur bleue. À l'époque, en plus, on était, il n'y avait pas encore les Teams et tout ça. Donc, c'était vraiment juste une conf call, quoi. Donc, je ne les voyais pas, je ne voyais pas leur visage, je ne voyais pas leur réaction. Heureusement, ils ne voyaient pas la mienne non plus. Mais moi, j'avais vraiment très, très peur. C'est que je me disais, ils vont me prendre pour une folle. Et là, les uns après les autres, ils me disent, Boudaina, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. On est hyper soulagés. Et là, il y a un truc qui se passe complètement fou. C'est-à-dire qu'en un dimanche après-midi, on a organisé le confinement de toute la boîte. On était 1000, hein, donc ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Donc, on a tout organisé pour que le lendemain matin, donc j'ai fait un communiqué par mail à l'ensemble des collaborateurs, tout le monde n'a pas de mail, donc le lendemain matin, tout le monde, les dirigeants s'organisent avec moi pour qu'il y ait des gens qui accueillent sur chacun des sites des collaborateurs pour pouvoir leur dire, ben voilà, on a pris telle décision, voilà comment ça se passe, etc. Et le lundi midi, tout le monde était chez lui. Et là, mon équipe me dit, on a un capitaine à bord, on te suit, Boudaina, et on a confiance en toi. Et ça, pour moi, c'est très important. Et puis, l'organisation se met vraiment en garde à vous. Et donc ça, c'est très, très rassurant pour moi. Mais une fois qu'on s'est dit ça, en fait, la trouille, elle est énorme. Parce que, en fait, et je pense que beaucoup de gens ont dû le voir, parce que j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec des dirigeants à ce moment-là, mais la mobilisation, elle est très forte. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils sont en garde à vous. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Vous leur dites, il faut sortir, faire ça, machin. Ils le font. En revanche, la décision, c'est le dirigeant. Il n'y a que le dirigeant. Les gens, ils attendent. Boudaina, on fait quoi? Et donc, il faut savoir quoi faire. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de cette expérience que j'ai eue au tout début de ma carrière où ma chef s'est retrouvée à l'hôpital et il a fallu décider. Et en fait, si c'est passé un peu... D'abord, je me suis raccrochée à cette idée-là et puis je me suis dit, tu réfléchiras philosophiquement plus tard. Pour l'instant, il faut adresser les urgences. Et donc, c'est quoi les urgences? Et je me suis dit, bon, ben, les urgences, elles sont assez simples. Un, il faut qu'on prévienne les annonceurs. Et comment on fait pour pas perdre tout le chiffre et comment on fait pour essayer d'en garder un peu pour la suite et préparer la voilà. Donc il va falloir parler à nos annonceurs. Il va falloir parler avec nos concédants pour leur expliquer qu'on va pas forcément pouvoir leur payer les redevances. Voilà, parce qu'on a plus d'argent. Et puis il faut organiser l'équipe, etc. Et donc petit à petit les choses se sont mises en place. Moi je suis quelqu'un de fort dans l'action. Donc ça s'est organisé, on a mis les choses en route, etc. Mais la solitude elle est énorme. La solitude elle est énorme parce que tout à l'heure je parlais comme ça de la Convention citoyenne pour le climat. Vous imaginez, en tant que dirigeant, vous êtes déjà dans une crise absolument cataclysmique pour votre boîte. Et là, vous apprenez qu'il y a des gens de toute bonne foi, hein, 150 citoyens, qui se disent qu'il faut arrêter la publicité extérieure. Et vous dites, en plus, si ça se trouve, on se relève jamais. Si ça se trouve, on se relève jamais. Et donc oui, il y a des colères, il y a des peurs, il y a des sentiments d'injustice, il y a de l'incertitude. Et en même temps, ce que je me suis toujours dit, c'est le capitaine doit montrer un visage serein. Un peu comme le pilote d'avion, quoi. C'est-à-dire que si moi, je commence à dire...
Si le capitaine commence à paniquer...
Voilà. Ouais. Si moi, je dis, on va peut-être jamais s'en sortir et on va peut-être jamais reprendre l'activité, là, je perds tout le monde. Et donc, pendant toute la période de la crise, mais même encore aujourd'hui, hein, je me suis dit, il faut parler aux gens. Tout le temps. Même pour ne rien dire, même quand on n'a pas grand-chose à dire. Il faut leur parler. Il faut qu'ils me voient. Il faut qu'ils m'entendent. Et il faut que je sois transparente. Et en même temps, il ne faut jamais laisser voir que j'ai des doutes. Et c'est comme ça que ça s'est mis. Je parlais de l'entre-nous tout à l'heure, ce rendez-vous que j'ai fait. Mais les premiers temps, le rendez-vous, il était tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, j'étais devant mon ordinateur chez moi, parce qu'on était tous en télétravail, et je parlais à un écran noir, et les gens me voyaient poser des questions. Et je me suis engagée vis-à-vis de moi-même, en disant, tu leur mentiras jamais. Je ne pourrais pas tout leur dire. Je leur mentirai jamais. Je serai aussi transparente que je peux l'être en chaque circonstance. Et je ne leur cacherai pas quand je ne sais pas. Voilà. Transparence, honnêteté, et on y va. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, bizarrement, ça m'a aidé. D'abord parce que c'est mon tempérament d'être honnête. Je suis quelqu'un d'assez transparent et intègre. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à raconter des carabistouilles. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime bien communiquer. J'aime bien parler aux gens. Et en fait, ça m'a soutenue parce que les gens étaient avec moi. En fait, ils m'ont envoyé des ondes positives. Alors, paraît un peu... les messages qu'ils m'envoyaient, c'était « on a confiance ». Et pourtant, ils me posaient des questions, genre, est-ce que vous pensez qu'on va s'en remettre? Est-ce qu'il va falloir faire un plan social? Est-ce qu'on va devoir virer des gens? Et en fait, j'en savais rien. Je savais qu'on était en danger. Et je leur disais, à ce stade, je ne sais pas, on fera tout pour éviter une réduction d'effectifs, on fera tout pour sauver l'entreprise, mais tous les scénarios sont possibles. Tous les scénarios sont possibles. Je leur ai jamais caché que potentiellement, il y aurait des départs. Et d'ailleurs, il y a eu un plan social après. Mais ce lien de confiance et ce lien de transparence, il nous a beaucoup aidé, ça les a aidés eux, parce qu'ils disaient s'il y a un truc, elle nous le dira. Et moi, ça m'a aidé parce que j'ai senti aussi que j'avais un collectif soudé derrière moi. Et ça porte. Bon, ça résout pas toutes les questions, ça empêche pas de pas dormir la nuit, ça empêche pas par bon moment d'avoir des doutes énormes, mais par contre, ça porte. Et Finalement, j'ai traversé, parce que ça va faire quatre ans que j'ai été nommée présidente, et on en a connu beaucoup, hein, des difficultés dans ces 4 années, parce que ça a continué, et puis on a eu plein de problèmes, même la guerre en Ukraine a eu des incidences pour nous, etc. Beaucoup de difficultés. Mais ce collectif que j'ai réussi à construire et cette confiance que j'ai bâtie avec l'entreprise, avec les gens de l'entreprise, ça m'a beaucoup, beaucoup porté. Et l'autre point important pour moi, je parle beaucoup de leadership, mais pour moi, cette idée de leadership, c'était une histoire d'alignement. En fait, ce que j'ai cherché à faire à chaque fois, c'est d'être aligné. Je pouvais pas, je prétendais pas être une surfemme, un super-héros, machin, j'avais pas sauvé le monde, si la publicité extérieure avait été interdite, je sais pas comment on aurait rebondi, mais on aurait trouvé quelque chose. Je me suis dit, n'essaie pas d'être ce que tu n'es pas, et n'essaie pas d'être un super-héros, et t'es pas Superman. En revanche, pour que tu puisses garder la confiance de ton collectif, il faut que toi, tu sois aligné. Il faut que toi, tu sois solide intérieurement. Et pour être solide intérieurement, c'est le fameux tête-cœur-ventre. C'est-à-dire qu'il faut que, entre ta vision, ce que ton cœur te dit et la manière dont tu vas le porter dans tes tripes, ce soit aligné. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, sur mon énergie, sur mon intégrité, sur mes valeurs. Par exemple, tu vois, quand on est dans une crise comme ça aussi compliquée, on se dit, la fairness, la diversité, l'inclusion, on s'en occupera quand on aura 5 minutes. Hein, parce que là, il s'agit de sauver le bateau.
C'est le risque dans toutes les crises.
Ouais. Et en fait, je me suis dit, jamais. Surtout pas. En fait, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut s'accrocher à ces valeurs, parce que c'est les valeurs qui permettent de passer finalement les moments les plus durs. Je me suis dit, il faudra jamais se départir du respect que tu as pour les gens, de l'inclusion, de ces valeurs-là qui te caractérisent, qui sont aussi ce que tu crois profondément. Tu peux pas tellement te détacher de ça, et ce qui fait que les gens te font confiance. Et donc c'est ça qui m'a aussi aidée, et cette idée d'alignement et de toujours revenir à ce que je suis et être honnête et intègre vis-à-vis de mes équipes.
J'allais te poser la question de c'est quoi la leçon de CEO, là. Et là, je pense qu'en l'espace de 5 minutes, tu viens de nous donner un éclairage et ta vision sur réellement ce que doit faire un CEO dans des situations comme celle-ci. Donc, merci beaucoup. Quand tu travailles pas, tu fais quoi?
Qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Je fais du pilates. Je marche beaucoup. Je marche très, très, très souvent. J'ai la chance d'habiter pas loin de la forêt. Marcher, pour moi, c'est une forme de méditation. Quand je marche des heures, hein. Je marche 2 heures, 3 heures. Et donc, c'est une forme de méditation. Ça m'aide aussi à me réaligner. C'est un point très important. J'adore marcher en montagne. J'adore faire, du trekking. Ça, c'est un point important. J'écoute beaucoup de podcasts. Je me nourris. Je pense que c'est important pour un dirigeant d'entendre ses pairs, mais aussi de se nourrir de philosophes, de gens qui réfléchissent à la société. Je suis très intéressée par la politique, donc je suis en veille. Et ça, c'est, pour moi, c'est très, très important. Ça m'aide aussi à penser le monde dans lequel je veux être. Parce que je pense qu'un dirigeant, c'est aussi un rôle politique, au sens de participation à la cité, pas au sens d'être de gauche ou de droite, mais au sens de participation à la construction du monde. Et donc, je me nourris beaucoup. Et souvent, je fais les deux d'ailleurs, j'écoute des podcasts en marchant.
Eh bien, écoute, je te conseille de t'abonner à ce podcast. Voilà, si c'est pas déjà fait. Super. On va arrêter là. Merci beaucoup, Boutaïna, pour ton témoignage et pour avoir accepté l'invitation. C'était très inspirant. Pour ceux qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore, Boutaïna, et je te souhaite le meilleur pour 2024.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.